Belle soirée à vous à l'écoute d'Europe 1, il est 22h. Tout de suite le journal, Isabelle Millet.
Œuvrons pour que la République soit partout et être intraitable avec le communautarisme. Mais ne stigmatisons pas nos concitoyens.
Emmanuel Macron, interrogé ce soir sur la polémique à propos du voile lors des sorties scolaires. Le président dénonce un raccourci fatal entre lutte contre le terrorisme et islam. Ce soir à Besançon, rassemblement de soutien à la mère de famille qui avait été prise à partie vendredi par un élu du Rassemblement national. Europe 1 était sur place. Vers un mois de décembre noir, en tout cas le jeudi 5, c'est certain, ce jour-là le pays risque d'être paralysé.
Nous appelons à ce qu'on se mobilise le 5 décembre dans le cadre d'un appel à la grève et nous avons déjà une détermination de plusieurs syndicats. Si on peut l'élargir encore, bien ce serait mieux.
Plusieurs syndicats et organisations étudiantes se joignent aux agents de la SNCF et de la RATP contre la réforme des retraites. Et Irène Frachon à la barre cet après-midi, témoignage crucial au procès du Mediator. À Barcelone, des scènes de guérilla urbaine ce soir pour le troisième jour consécutif.
On ne voulait pas en arriver là, mais si on ne met pas le foutoir, on n'aura rien.
Les indépendantistes dans la rue, on sera sur place en direct avec le correspondant d'Europe 1 à Barcelone, Henri Delagueri. Le soulagement pour le musée du Louvre, la justice italienne autorise finalement le prêt des œuvres de Léonard de Vinci pour l'exposition qui ouvre la semaine prochaine. Du côté du temps, sachez-le, demain la journée sera grise sur une bonne partie du pays. Seuls les pourtours méditerranéens profiteront d'une belle matinée, mais ça va se gâter dans l'après-midi. Ne manquez pas en tout cas les prévisions complètes d'Anissa Haddadi à la fin de ce journal. Comme chaque soir, à 22h20, vous avez rendez-vous avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil, qui reçoit ce soir le président de la banque en ligne N26, Jérémy Rosselli. Les néobanques qui attaquent de plus en plus les gros réseaux.
Europe 1.
La polémique sur le voile lors des sorties scolaires qui divise toujours la majorité. Ce matin sur Europe 1, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, déclarait qu'il était contre un texte interdisant ce voile. Dans le même temps, il estime que le voile n'est pas compatible avec la culture française. Hier, Édouard Philippe avait lui rejeté l'idée d'une loi sur le sujet. Mais Emmanuel Macron, lui, ne s'était pas exprimé jusqu'à présent. Le président dénonce ce soir un raccourci fatal entre lutte contre le terrorisme et islam.
La lutte contre la radicalisation, le gouvernement y est engagé depuis le premier jour. Et ensuite, un deuxième combat dont j'ai parlé, qui est la lutte contre le communautarisme. Le communautarisme, ça n'est pas le terrorisme. Il faut distinguer ces deux notions. Et puis enfin, il y a les religions en France, donc une religion, l'islam, qui s'inscrit dans un cadre, celui de la République, où on doit respecter toutes les règles de manière absolue. Et je serai intransigeant. Mais on doit aussi respecter la liberté de croire et de ne pas croire. C'est ça, la laïcité. Et j'entends un raccourci fatal entre le premier sujet et le troisième. Faisons bloc et ne nous divisons pas pour lutter d'abord et avant tout contre la radicalisation dans notre société. Œuvrons pour que la République soit partout et être intraitable avec le communautarisme. Mais ne stigmatisons pas nos concitoyens.
Emmanuel Macron à Toulouse, où se tenait aujourd'hui un conseil des ministres franco-allemands. Le chef de l'État était au micro européen de Jean-Rémy Baudeau. Ce soir, un rassemblement pour la laïcité, justement, était organisé à Besançon en soutien à cette mère de famille prise à partie vendredi par un élu rassemblement national au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Arthur Henbaché, vous étiez sur place pour Europe 1.
250 personnes environ devant les locaux bisontins du conseil régional, des badges SOS racisme, des logos du NPA, des militants communistes, des militants En Marche aussi, et la présidente socialiste de la région, Marie-Guide Dufay, qui a vu en entretien privé hier la maman envoilée de la sortie scolaire de vendredi dernier et ses proches.
Merci d'être là. Je leur ai dit qu'il y avait une grande partie, une immense partie, la majeure partie du pays qui était pour eux. Mais c'est vrai que ils ne voient pour l'instant que les tweets abominables, les paroles de rejet et de vindicte. Mais je pense qu'à un moment, la raison viendra et qu'il faut bien admettre que la loi est là pour protéger tous ceux qui ont des signes distinctifs. La loi les protège et la loi doit continuer de les protéger.
Et il y avait ici tout à l'heure un sentiment de frustration. Se rassembler, c'est bien, m'a dit un organisateur, mais on n'est pas bien nombreux. Où est l'indignation générale, se sont demandé les gens rassemblés, cette indignation qu'on devrait avoir partout, disent-ils, en France.
Le reportage d'Arthur Henbaché à Besançon pour Europe 1. Notez que Marine Le Pen sera l'invitée d'Europe 1 demain à 8h15 avec Sonia Mabrouk. Près de deux semaines après le meurtre d'un jeune de 15 ans, des centaines de personnes ont marché ce soir au Lila en Seine-Saint-Denis contre la violence à l'appel de quatre communes. Il y avait des élèves, des parents, des enseignants, des élus rassemblés derrière une banderole. Trois morts en un an, État absent, tous unis Occitanie contre la violence. Vous avez votre agenda sous les yeux, sinon prenez-le et notez bien cette journée du 5 décembre. C'est un jeudi et ce sera très probablement un jeudi noir. On savait que la RATP et la SNCF avaient prévu d'en faire le point de départ d'une grève illimitée. Eh bien, le mouvement s'étend, les syndicats veulent en faire la journée de mobilisation générale contre la réforme des retraites, tous les secteurs en grève. Écoutez Yves Verrier, le secrétaire général de Force Ouvrière.
Nous, ce que nous voulons, c'est qu'on revienne à la table de négociation, mais dès le point de départ. Mais si nous ne sommes pas entendus, à un moment donné, nous n'avons pas d'autre moyen en tant que syndicat, lorsque nous avons expliqué, argumenté, précisé, publiquement, eh bien, nous n'avons pas d'autre moyen que d'appeler à une mobilisation des salariés. Les salariés ont un droit constitutionnel, c'est le droit de grève. Eh bien, nous appelons à ce qu'on se mobilise très largement le 5 décembre dans le cadre d'un appel à la grève. Et nous avons déjà une détermination de plusieurs syndicats. Si on peut l'élargir encore, bien ce serait mieux.
Alors, on a bien noté qu'il s'agit d'un appel à une première journée de grève interprofessionnelle, ce qui laisse entendre qu'il pourrait y en avoir d'autres dans les jours ou les semaines qui suivent.
Bien, on ne veut pas donner le sentiment que c'est une énième journée d'action qui pourrait ne pas être suivie des faits. Donc, c'est très clair. Si nous ne sommes pas entendus, eh bien, ce seront les salariés qui décideront de la suite à donner à cette mobilisation.
Yves Verrier de Force Ouvrière, joint pour Europe 1 par Olivier Samin. 8 militants écologistes poursuivis pour avoir décroché des portraits d'Emmanuel Macron dans 3 mairies parisiennes ont été condamnés aujourd'hui à 500 euros d'amende. Une décision à l'opposé de celle rendue le mois dernier à Lyon où le tribunal avait jugé légitime l'action de désobéissance civile de 2 décrocheurs. Un témoignage très attendu aujourd'hui dans le procès du médiateur, celui de la pneumologue Irène Frachon. C'est par elle que le scandale est arrivé. Point par point, elle est revenue cet après-midi sur les signaux qui l'ont alertée sur les dangers de ce médicament. Chloé Triomphe, vous avez suivi cette audience pour Europe 1. La pneumologue a exposé ses arguments avec beaucoup de technicité, mais aussi un certain sens de la formule.
Oui, car Irène Frachon est tout sauf une ponte au langage pour initier. C'est à la fois sa singularité et ce qui explique sans doute qu'elle ait découvert par ses observations de non-spécialistes ce que les meilleurs chirurgiens cardiaques n'ont pas décelé en 30 ans. « Je suis tombée de l'armoire », résume-t-elle quand elle évoque les études de cas cliniques et qu'elle fait projeter devant la cour des photos de cœur. Celui de droite, c'est celui de Marie-Claude, balance Irène Frachon sans pincette en décrivant sa valvulopathie consécutive à la prise de Mediator et qu'elle décrisse cet aspect visuel avec cette image, c'est comme de la glu autour de la valve. Pour maître Charles-Joseph Houdin, avocat de nombreuses parties civiles, Irène Frachon a aussi le mérite de mettre de l'humanité dans ce procès.
Elle nous parle des victimes, elle nous parle de Marie-Claude, elle nous parle de Martine, elle nous parle de Séphérina. Ça fait quelques semaines maintenant qu'on parle du médiateur, mais derrière des techniciens, des chiffres, des études, y a une réalité humaine. C'est des victimes.
Quant au laboratoire Servier qui écoute patiemment cette longue déposition et qui se voit taxé de manipulateurs, de falsificateurs et qui sont accusés par Irène Frachon d'avoir fait preuve d'un inébranlable déni, ils attendent à leur tour de questionner la pneumologue.
Chloé Triomphe qui suit pour Europe 1 ce procès du médiateur au tribunal correctionnel de Paris. Plus d'une vingtaine de chefs de service de pédiatrie d'Île-de-France s'alarment du manque d'internes de médecine générale auxquels ils risquent de faire face cet hiver. Ils craignent que cela ne débouche sur une crise sanitaire. Le verdict dans le procès en appel du bébé du coffre, la mère de la petite Serena, a été condamnée à 5 ans de prison ferme. L'enfant était resté caché et confiné pendant 23 mois dans le coffre d'une voiture. À l'insu de tous, elle souffre encore de terribles séquelles.
Europe 1, le journal de la nuit. Isabelle Millet.
Il est 22h09, merci d'écouter Europe 1, c'est la suite de votre journal. Et à la veille d'un sommet européen crucial, les bases de l'accord sur le Brexit sont prêtes, dit Donald Tusk, tandis qu'Emmanuel Macron, lui, veut croire qu'un accord est en train d'être finalisé. Le Brexit qui était au cœur des discussions aujourd'hui entre Angela Merkel et Emmanuel Macron à Toulouse, mais il a également été question, évidemment, de l'offensive turque en Syrie. Le président turc rejette l'appel au cessez-le-feu de Donald Trump, mais il accepte finalement de rencontrer demain le vice-président américain Mike Pence, qui est en route pour Ankara, alors que ce soir on apprend que les forces kurdes annoncent le gel de leurs opérations anti-État islamique. Jean-Yves Le Drian, lui, est en Irak pour discuter de la création d'un dispositif international pour juger les djihadistes de Daesh. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'inquiète du risque de dispersion de ces détenus. Les autorités françaises ont confirmé aujourd'hui la détention en Iran d'un chercheur français, Roland Marchal, arrêté début juin en même temps que sa compagne Fariba Adelka. Pourtant, seule son arrestation à elle avait été communiquée jusqu'à présent. Roland Marchal est un chercheur réputé du CNRS. Il travaillait pour Sciences Po, où ses collègues étaient jusque-là restés discrets pour ne pas compliquer les négociations en cours. Écoutez ce professeur Richard Banegas, qui connaît bien Roland Marchal.
Pour tout un tas de raisons qu'on peut imaginer, le Quai d'Orsay a préféré qu'on fasse silence sur le nom de Roland, celui de Fariba étant sorti par ailleurs par les réseaux iraniens. On nous a demandé de garder le silence. Ce que nous avons fait, c'était compliqué. Mais bon, ça, ce confort moral des chercheurs, évidemment, passe au second plan à des considérations tactiques ou stratégiques qui doivent mener à la libération de nos deux amis. Donc, c'est ça qu'on a fait prévaloir. Aujourd'hui, que le nom de Roland est également sorti dans la presse, eh bien, voilà, on passe sans doute à une autre étape et on va voir quels autres types d'actions pourront être menées. À tout le moins, j'espère que nous parviendrons à exercer cette pression qui me paraît importante via une suspension des relations scientifiques avec l'Iran.
L'un des collègues de Roland Marchal, joint pour Europe 1 par Victor Dolande. Et on prend maintenant la direction de l'Espagne, la Catalogne plus précisément, où la mobilisation ne faiblit pas depuis la condamnation des leaders indépendantistes. On vous retrouve en direct de Barcelone, Henri Delaguerie. Bonsoir Henri.
Bonsoir.
Troisième soirée de manifestation donc, avec des affrontements en plein centre de Barcelone.
Effectivement, et ce soir, des indépendantistes radicaux s'en prennent aux institutions catalanes. Les affrontements ont lieu devant le ministère régional de l'Intérieur, en plein centre-ville, dans le quartier moderniste. Jets de pierre, barricades, voitures incendiées. C'est un véritable chaos à l'heure où je vous parle. Et ce qui est nouveau, c'est que de plus en plus de séparatistes justifient ces émeutes. Écoutez, Joan Maria.
On ne voulait pas en arriver là, mais si on ne met pas le foutoir, on n'aura rien.
Voilà, le président catalan Quim Torra n'a toujours rien dit sur ces émeutes. Il est dans une situation pour le moins contradictoire. Il appelle d'un côté à la mobilisation et dans le même temps, c'est la police catalane, celle qui est sous ses ordres, qui charge contre les manifestants. En tout cas, ces derniers sont déterminés. Les grands rassemblements pacifiques, ça semble terminé. Des voies ferrées et des routes sont coupées. Pour Josep, il faut paralyser la Catalogne.
Il faut bloquer l'aéroport, les ports. Et toutes les routes, si on collapse Catalogne, on collapse toute l'entrée à la France, à toute l'Europe.
Vous avez vu ce qui s'est passé en France avec les Gilets jaunes, c'est une source d'inspiration pour vous ?
Absolument.
Il y a quelques minutes, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a demandé aux autorités catalanes de condamner clairement les violences, alors que l'opposition lui réclame, il écarte pour le moment la suspension de l'autonomie.
Situation chaotique effectivement en ce moment à Barcelone. On suit ça grâce à vous en direct. Merci Henri Delaguerie, correspondant d'Europe 1 sur place. On vous raconte maintenant l'histoire de cette famille qui vivait recluse aux Pays-Bas dans une ferme isolée et que la police hollandaise a découverte. Ils attendaient apparemment la fin du monde. Un homme et cinq autres adultes présents comme ses enfants. Pierre Herbulot, il n'avait apparemment pas vu la lumière du jour depuis 9 ans.
Oui, jusqu'à l'entrée dimanche soir dans un café de la ville d'un homme de 25 ans. Il est très sale, porte de vieux vêtements, a les cheveux en bataille et parle comme un enfant. Son discours est confus, mais il demande de l'aide, raconte le gérant du bar. La police néerlandaise est prévenue. Elle se rend alors, sur ses indications, dans une ferme bordée et même cachée par des arbres au beau milieu de nulle part. À l'intérieur, dans une petite pièce verrouillée, les policiers découvrent 5 hommes, un père et ses 4 enfants, tous majeurs, les frères de celui qui a donné l'alerte. La famille vivait ici recluse depuis au moins 9 ans. Mais ce qui frappe le plus les forces de l'ordre, ce sont les propos qu'ils entendent dans la bouche de ces hommes. Ils disent attendre la fin des temps. Certains affirment même découvrir l'existence d'autres personnes sur Terre, raconte une télévision locale. D'après les premiers éléments de l'enquête, cette famille était retenue contre sa volonté par le gérant de la ferme, interpellé. Un Autrichien de 58 ans, interrogé toute la soirée par les enquêteurs néerlandais. Il comparaîtra dès demain devant un juge d'instruction.
Les précisions de Pierre Herbulot pour Europe 1. Allez, on termine par une bonne nouvelle, en tout cas pour les amateurs d'art. La justice italienne autorise finalement le prêt de plusieurs œuvres de Léonard de Vinci au musée du Louvre. Des œuvres qu'une association de défense du patrimoine ne voulait pas voir sortir du territoire italien. Et parmi elles, Diane Chenouda, il y a le fameux dessin « L'homme de Vitruve ».
Absolument, c'est le dessin le plus célèbre de Léonard de Vinci, l'un de ses chefs-d'œuvre, cet homme de Vitruve, dessin iconique qui représente le corps parfait de l'homme au centre de l'univers, un homme nu dessiné dans un cercle et un carré, dessin très fragile, à la plume et à l'encre, exécuté en 1490. C'est un peu la Joconde de Léonard pour les dessins, une œuvre humaniste conservée à Venise qui devrait donc pouvoir faire le voyage jusqu'à Paris. Alors le musée ne fait aucun commentaire, mais bien sûr qu'on imagine le soulagement pour le Louvre, même s'il reste un grand point d'interrogation. Le célèbre dessin va-t-il arriver à temps pour l'ouverture de l'exposition dans une semaine, le jeudi 24 octobre, pas si sûr, car cela prend du temps d'affréter un avion, de faire le constat de départ et d'arrivée qui permet de vérifier que l'œuvre n'a pas été altérée par le voyage. Bref, tout ça demande énormément de précautions, une certitude, enfin en tout cas on l'espère, l'homme de Vitruve, bien, même s'il arrive en retard, sera exposé au Louvre à Paris et devrait l'être pour 2 mois.
Diane Chénouda du service culture d'Europe 1 et puis le capitaine du Barça, Lionel Messi, a reçu aujourd'hui son 6e soulier d'or européen qui récompense chaque année le meilleur marqueur des championnats européens. Messi qui a marqué 36 buts la saison passée, c'est 3 de plus que Kylian Mbappé. Et on jette un œil tout de suite sur la météo.
N'adaptez plus vos pneus aux conditions climatiques. Ce sont vos pneus 4 saisons Hankook qui s'adaptent à la route. Hankook vous présente la météo.
Alors dites-nous tout, Anissa Haddadi, comment s'annonce Anissa la journée de demain ?
Alors demain, Isabelle, le profil de la France est assez simple. Sur une diagonale qui coupe la France de l'Aquitaine à l'Alsace en passant par le Limousin, le Massif Central, le Jura, la journée va débuter sous des nuages et des pluies assez soutenues tout au long de la journée. Donc dans toutes ces régions, hein, de l'Aquitaine à l'Alsace, c'est parapluie obligatoire. Dans l'après-midi, c'est sur la Franche-Comté, la vallée du Rhône et le sud du Massif Central que cette bande pluvieuse va s'étendre. Au nord-ouest de la Bretagne, aux Hauts-de-France, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies, avec le vent d'ouest qui souffle fort jusqu'à 80 km/h. Et puis plus au sud, des Pyrénées aux Alpes, donc le long du bassin méditerranéen et en Corse, le soleil fera de belles apparitions le matin et sera un peu plus contrarié par les nuages demain après-midi. Sur les Cévennes, quelques gouttes sont possibles à cause des entrées maritimes du matin. Les températures, elles sont plutôt stationnaires, quasiment identiques à celles d'aujourd'hui. 5 à 16 le matin de Gap à Biarritz. Demain après-midi, nous aurons 15 à Aurillac et à Limoges, 18 à Paris, 21 à Nice et 23 pour Marseille.
La météo signée, Anissa Haddadi.
Europe 1.
Dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Didier Hamo de boursier.com. Juste avant, l'invité d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir le patron de la banque en ligne N26. A tout de suite sur Europe 1. Il est 22h17, vous écoutez Europe 1 et comme tous les soirs à cette heure-ci, on s'intéresse à la bourse. Avec vous Didier Hamo de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Isabelle.
Et Wall Street qui hésite ce soir à la clôture.
Beaucoup d'attentisme, oui, en raison des négociations sur le Brexit qui se prolongent. En raison aussi du dernier rapport de la Réserve fédérale américaine qui confirme un net ralentissement économique outre-Atlantique, ça donne de petits écarts et une baisse de 0,08% sur le Dow Jones à la clôture, 27 002 points. Le Nasdaq, 7,03%, 8 124 points. Beaucoup de prudence donc. Et puis en septembre, les ventes au détail ont reculé de 0,3% aux États-Unis. C'est plus que prévu et ça confirme donc ce ralentissement économique qui se confirme mois après mois. Sur les valeurs de technologie, ça baisse un petit peu. Il n'y a pas de casse. IBM, moins 0,5%. Microsoft, moins 0,8%. Intel, moins 0,4%. Apple baisse de 0,4% aussi à $234,30. Google est stable. Le pétrole tente un petit rebond. Il avait pas mal baissé. On remonte de 0,7%. Là aussi, c'est un très léger écart, on va dire. $53,30 le baril. Et puis l'euro monte un petit peu aussi. 1,1075 face au dollar.
Et la bourse de Paris a, elle aussi, stagné.
Oui, il ne se passe pas grand-chose. Tout simplement parce qu'on attend donc les négociations, en tout cas les résultats des négociations autour du Brexit. Ce sera sans doute pour demain.
Sans doute.
Sans doute.
On fait attention maintenant.
Oh là là. Alors, le CAC 40, on est quasiment sur les 5700 points, toujours au plus haut depuis 2007, quand même depuis 12 ans. Le CAC a perdu 0,09%, pratiquement rien, 5696 points. Les variations sont donc restées mesurées, limitées, avec des rebonds quand même sur des valeurs industrielles comme Vallourec, plus 2%, ou Alstom, l'automobile, Faurecia, plus 2% aussi avec Peugeot et Valeo.
Puis il y a une exception du jour, Didier, c'est le titre Pierre et Vacances qui a fortement progressé. Ce sont bientôt d'ailleurs les vacances de la Toussaint.
Ah oui, ça arrive à grands pas. Le groupe de résidences et de villages touristiques Pierre et Vacances remonte de plus de 4%, 4,2%. 15,36 €. Le groupe a fait part d'un chiffre d'affaires annuel de 307,7 millions d'euros et anticipe un résultat opérationnel courant en progression sur l'exercice 2018-2019. Donc de bons chiffres, Pierre et Vacances en hausse de 4,2% ce soir. Sur les autres places financières, ça monte un petit peu. Francfort plus 0,3%, Bruxelles plus 0,1%, Madrid plus 0,25%, Milan plus 0,3%. On rappelle le CAC 40 pratiquement stable, moins 0,09%, 5696 points.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon, Didier Hamo, rédacteur en chef de boursier.com. Et tout de suite, c'est l'heure de l'invité écho.
L'invité éco avec laposte.fr/pro, la solution des pros pour imprimer des timbres depuis son bureau.
Emmanuel Dutheil, vous recevez ce soir le patron de N26 en France.
Bonsoir Jérémy Rosselli.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le patron de N26 en France. Alors certains de nos éditeurs sont peut-être en train de se dire, tiens, c'est quoi N26 ? C'est ce que l'on appelle une néobanque. C'est une banque en ligne. Elle a été fondée en 2013 en Allemagne. Elle est en France, je crois, depuis juin 2018. Et vous avez 900 000 clients à fin août 2019. Vous allez peut-être nous donner des chiffres encore un petit peu plus récents. Avant d'en arriver jusque-là, c'est quoi une néobanque ? C'est quoi N26, cette banque en ligne ?
Alors d'abord, une néobanque, c'est une banque. C'est une banque où vous pouvez tout faire depuis votre téléphone mobile. Le credo chez N26, en fait, c'est de permettre aux clients de gérer leurs finances au quotidien comme ils le souhaitent, c'est-à-dire où ils veulent et quand ils le veulent depuis leur téléphone mobile. Mmh. Donc, vous pouvez faire l'ensemble des transactions que vous faites directement, normalement, depuis votre agence, depuis votre téléphone mobile. Donc, des virements, des prélèvements, mettre de l'argent de côté, vous pouvez faire toutes ces opérations extrêmement facilement depuis votre téléphone mobile. Et vous pouvez même ouvrir un compte directement depuis votre téléphone, même un dimanche, même depuis votre canapé, il n'y a absolument aucune paperasse. Donc c'est comme si vous aviez une agence bancaire dans votre poche.
Donc ça, c'est le gros avantage, la simplicité. Il y en a d'autres aussi, par exemple pour ceux qui voyagent beaucoup, puisque vous ou vos concurrents, on peut citer notamment Revolut, hein, qui est l'un de vos gros concurrents, c'est que grâce à vous, par exemple, on n'a pas de frais quand on paye à l'étranger. C'est une des autres raisons principales pour lesquelles les clients misent aujourd'hui sur vous.
Oui, effectivement. Quand vous voyagez, en fait, les banques traditionnelles vont vous charger des frais bancaires extrêmement élevés. Chez N26, au contraire, lorsque vous voyagez, vous n'avez absolument aucun frais bancaire. Vous n'avez même pas besoin de réfléchir. Lorsque vous payez avec votre carte, vous n'avez pas de frais. Par exemple, lorsque vous voyagez et que vous dépensez peut-être 700 ou 800 euros pendant vos vacances, une banque traditionnelle va vous faire payer 80 euros de frais bancaires en moyenne. Donc ça, c'est vraiment des économies substantielles pour les clients.
Alors, ça marche sur les paiements, mais attention, pas sur les retraits. En revanche, il faut faire attention quand même quand on est à l'étranger là-dessus. Comment vous gagnez votre vie ?
Alors, nous gagnons notre vie d'abord, même sur les comptes gratuits, grâce à ce qu'on appelle le taux interchange. Donc, en fait, dans n'importe quelle banque, lorsque vous payez avec votre carte, la banque émettrice de la carte, en fait, gagne de l'argent grâce aux commerçants. Ensuite, nous avons des formules premium, hein, où vous avez, par exemple, des assurances lorsque vous voyagez, ou les assurances de vos biens électroniques. Et vous avez même accès à des services privilégiés, comme par exemple des tirelires numériques, qui vous permettent de mettre de l'argent de côté, très simplement, du bout du doigt.
Qui est aujourd'hui le client principal de N26 ? À quoi il ressemble, ce client ?
Alors justement, je vais vous poser la question. À votre avis, à quoi il ressemble ?
Bah, je pense que si vous me posez la question, c'est que c'est étonnant. Moi, j'allais vous dire un jeune, plutôt urbain, cadre dynamique, qui voyage beaucoup.
Eh bien, pas du tout. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, il y a 4 clients sur 10 qui a plus de 35 ans. Donc N26, ça s'adresse réellement à l'ensemble des Français. D'ailleurs, il n'y a pas de conditions de revenus ni de conditions de dépôt. Et on voit que ça ressemble vraiment aux Français moyens, donc à peu près de tous les âges. On a des gens qui ouvrent leurs comptes le jour de leurs 18 ans, comme on a des gens qui ont plus de 80 ans qui sont clients chez N26.
Est-ce qu'un jour, on peut imaginer qu'une banque comme vous, comme N26, ou vos concurrents comme Revolut, vous pourriez devenir une banque globale ? C'est-à-dire, est-ce que ça pourrait être aussi simple de faire du crédit immobilier, de l'assurance, etc., etc.
On est déjà capable de proposer du crédit à consommation jusqu'à 50 000 euros, encore une fois, complètement digitalisé, sans aucune paperasse. Et nous continuons à développer notre gamme de services. Donc en Allemagne, par exemple, nous avons déjà innové avec l'épargne et l'investissement. Et nous continuons à étoffer notre offre. Et bien entendu, d'ici quelques mois et quelques années, nous aurons une offre entièrement complète.
Donc d'ici quelques mois, on pourra faire un prêt immobilier, par exemple ? C'est ça que vous nous dites ? C'est peut-être quelque chose que vous regardez ?
Peut-être pas d'ici quelques mois. Simplement, lorsqu'on discute avec nos clients, en fait, le crédit immobilier, c'est quelque chose que vous faites une fois dans votre vie. Chez N26, on cherche d'abord à simplifier la vie du quotidien. Et donc, quand on demande aux clients, ce qui les intéresse, c'est d'abord plutôt de faire des crédits à consommation, de pouvoir épargner. Donc, c'est pour ça qu'on se concentre d'abord sur les demandes de nos clients.
Mais du coup, vous êtes pour le moment la banque en plus. C'est-à-dire qu'on a le grand réseau bancaire traditionnel et puis on prend en plus une carte chez N26. C'est comme ça que ça se passe ?
C'est comme ça que ça se passe au début. En fait, les gens essayent N26 et très rapidement, ce qu'on voit quand on regarde un petit peu les dépenses et les montants utilisés par les clients, c'est qu'ils s'en servent d'abord pour tester et très rapidement, en fait, ça devient leur banque principale. C'est-à-dire qu'on voit en moyenne, les gens utilisent N26 pour plus de 1000 euros par mois. Donc, c'est à peu près les typologies de dépenses de tous les Français, à la fois en termes de nourriture, de transport ou de sortie.
La France est un pays un peu particulier puisque les banques en ligne ont mis du temps à exploser en France et ont encore une part de marché qui n'est pas énorme. Mais vous avez un énorme concurrent qui rafle quand même la majorité des comptes des banques en ligne aujourd'hui, c'est Boursorama. C'est lui votre vrai concurrent en France ?
Aujourd'hui, on voit qu'N26 accélère et réellement la banque qui croît le plus rapidement en France. Pour vous donner un ordre de grandeur, on a déjà doublé notre nombre de clients depuis le début de l'année. On a dépassé 1 million de clients. On sait qu'on arrivera très rapidement au second million de clients en France.
Très rapidement, ça veut dire quoi ?
C'est-à-dire qu'on se donne 12 à 18 mois pour atteindre le second million de clients. Alors
donc à la fin de l'année prochaine, fin 2020, vous aurez 2 millions de clients en France.
C'est ce qu'on espère, contrairement aux acteurs historiques qui sont déjà là depuis plus de 10 ans.
Vous êtes une banque allemande, hein, je disais, même si vous êtes présent en France maintenant depuis de nombreux mois. Il y a certains clients qui disent que c'est compliqué, puisque le fameux IBAN qu'on doit donner pour, par exemple, payer nos traites d'électricité, ce genre de choses, vous, je crois qu'il ne commence pas par FR, ce qui pose un problème, puisqu'il est refusé certaines fois pour certains paiements. Est-ce que c'est un problème ?
Alors normalement, ça ne devrait pas être refusé.
Ça ne devrait pas, mais ça l'est.
Ça l'est encore. Donc nous travaillons avec les différentes autorités et de toute façon, nous allons être capables d'apporter une solution vraiment pragmatique à nos clients assez rapidement.
Est-ce que malgré tout, ce n'est pas ça aujourd'hui le principal quand même problème, ces difficultés-là, le fait d'être connu ? Parce qu'on sait que pour choisir une banque, il faut avoir confiance.
Bien sûr. Mais là, la confiance, elle vient surtout par la recommandation des clients. Aujourd'hui, notre principale source de croissance, c'est les clients qui parrainent typiquement leurs amis, leur famille et leurs proches en leur recommandant N26. Donc ça, on n'a absolument pas de problème de notoriété à ce niveau-là et de confiance.
Est-ce qu'un jour, il y aura des agences N26 ?
C'est absolument pas notre projet. Au contraire, notre objectif, c'est vraiment que votre agence soit dans votre poche, que vous puissiez tout faire depuis votre téléphone mobile. Nous travaillons là-dessus tous les jours et aujourd'hui, ça marche.
Eh bien, merci beaucoup, Jérémy Rosselli, le patron de N26 en France, d'avoir été notre invité ce soir. On se retrouve demain, 22h20, sur Europe 1.
Merci à vous et effectivement, à demain, Emmanuel Dutheil.
C'était l'invité éco avec laposte.fr/pro, la solution des pros pour gagner du temps. Plus besoin de se déplacer, imprimez vos timbres depuis votre bureau.
Et dans un tout petit instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quels sont les sujets que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant ? À tout de suite sur Europe 1. Et voici donc ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. Vous pourrez lire notamment les infos exclusives du journal Les Échos. Réforme des retraites, un plan B se dessine. Dans un document communiqué aux partenaires sociaux et dont Les Échos ont obtenu la copie, le haut commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, rouvre la discussion sur les délais de mise en œuvre de cette réforme. Le gouvernement, nous dit le journal, travaille sur plusieurs scénarios alternatifs. Finalement, ce ne sera peut-être pas la génération née en 1963 qui basculera la première dans le système de retraite universelle par points que veut mettre en place Emmanuel Macron. Craignant un mouvement social d'ampleur, le gouvernement est en train de se ménager des issues de secours. Il étudierait comment retarder sa mise en œuvre, au moins pour certaines catégories socio-professionnelles très mobilisées. Deux drapeaux côte à côte, à la une du journal La Croix, le drapeau européen et le drapeau britannique avec ce titre « Brexit, Londres et Bruxelles face à l'histoire ». Alors qu'on l'a dit tout à l'heure dans le journal, un sommet européen décisif se tient demain. Brexit, le bras de fer jusqu'au bout, titre quant à lui le Figaro. Libération a choisi pour sa une photo de Boris Johnson qui marche d'un pas déterminé. Il faut y aller maintenant, titre le journal. Après 3 ans de psychodrame et à 2 semaines de la date couperet du 31 octobre, Européens et Britanniques négocient encore pied à pied ce soir. Brexit, l'Irlande, nœud de l'accord, titre pour sa part le journal L'Opinion. Les négociations entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne sont dans leur dernière ligne droite. Plusieurs dirigeants, dont Emmanuel Macron, ont fait part ce soir de leur optimisme sur la conclusion d'un accord. On suivra ça dans les prochaines heures. Très belle soirée à tous. Voilà pour ce tour d'horizon des unes de la presse que vous retrouverez demain matin dans vos kiosques. Et vous retrouvez tout de suite sur Europe 1, Olivier Delacroix pour votre libre antenne. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Isabelle.
Très belle émission à vous, je vous retrouve à 23h.
À tout à l'heure.
Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Olivier Delacroix.